Paul Verlaine, Mes hôpitaux. Chapitre 1. Au moins, ce ne fut pas la faute de la littérature, qui l'aurait comblé d'or et d'honneur, mais bien un peu la sienne propre et celle d'autrui, n'est-ce pas, chère madame, s'il s'était trouvé à l'hôpital. Sans plus insister sur ce point, aussi bien insignifiant, ce n'est pas moi qui parlerai, c'est lui qui parlera, et ce, plutôt impersonnellement, selon son tempérament particulier de poète comme ça. Dans de hautes salles, dans un littéral palais, se passèrent les semaines d'apprentissage. Les immenses rideaux blancs aux fenêtres et le beau soleil de juillet qui lui firent garnir l'âme d'une chaude fraîcheur qu'entretenait au point quelque argent comptant et à échoir à coup sûr, en sorte que la situation actuelle, sur place et au dehors, n'apparaissait pas pénible, fier tout au plus dans son embarras léger. Des médecins en chef et de leurs états-majors, d'internes et d'externes, qu'on dire sinon qu'ils étaient très bien, des employés aussi, l'Église dit « serviteurs », et des malades, sinon que les pauvres gens faisaient de leur mieux pour guérir. Une mort seulement sur ces 40 et quelques jours, un vieillard qui s'éteignit en balbutiant « Maman, maman !» Et en somme, une très bonne impression première, un début courageux mais facile. Moins facile, sinon moins courageuse, la seconde épreuve supportée. Au palais dur et cru, comme protecteur, ont succédé des baraquements sapins et briques, à l'instar, paraît-il, des hôpitaux volants américains. L'extérieur ressemble passablement à quelque abattoir, et dedans, c'est l'architecture d'une chapelle méthodiste. Il n'y manque que des citations de Saint Paul sur écriteau blanc accroché au mur de bois verni. On dirait aussi du Kursaal, d'une station balnéaire nouvellement installée. Ces deux jours après la Toussaint, les fenêtres donnent sur un jardin d'horticulteurs fleuristes, riverains du chemin de fer de ceinture. Un rang d'acacias joue la lisière d'un bois dont l'intérieur des fortifications vues derrière serait l'épaisseur, mais les feuilles se raréfiant défont vite cette illusion des yeux. Les médecins et les élèves sont toujours parfaits, mais semblent à la fois un peu bien sceptiques et infatués. Le personnel, mon Dieu, toujours irréprochable, mais les malades ne paraissent pas raffolés du départ des sœurs. Eux-mêmes sont quinteux et quelques-uns plus bêtes que de droit. Vers 2 heures, le garçon de nuit range sur un grand buffet central appelé appareil les pots d'étain pour les tisanes. Une alaise ou demi-drap, dont il va les couvrir durant le balayage, fait l'effet, comme il l'a jeté sur ses épaules dont elle pend autour de son corps et le long de ses bras, du surplis d'un prêtre disposant un tas de saintes huiles. De l'ouate en tampons et en flocons, ça et là, complète la vision. Bon sommeil, parfois. On vous réveille au petit jour pour y faire vos couvertures. Une fille de salle est une paysanne récemment descendue du train, presque du coche. Un peu simple, sans trop de naïveté, et très bonne, vraiment. Pas l'ombre d'une pensée d'intérêt. Elle s'y prend si gentiment pour vous dire « Paresseux, dressez donc, vous, qu'on arrange vos oreillers, qu'on est tout charmé, sans pouvoir retenir un sourire vaguement sensuel, car elle est jeune encore et de gentil visage. » Guerre d'incidents au cours d'un semestre d'hiver écoulé parmi la touffeur de feu de coque dans de la fonte. Un alcoolique, un cocher, très raisonnable dans la journée, s'échappe un matin vers 4 heures et saute minu par une des fenêtres, de plein pied d'ailleurs, à quelques 50 centimètres près, et revient en civière, arrêté qu'il avait été par des hommes de l'octroi avec cette parole Mais c'est pas moi, je vous assure. Il fait un clair de lune glacial, découpant les objets comme avec des ciseaux, faussant toute perspective, soleil louche aux rayons fous, et c'est très tesserestien et très canidiaque. Mort insignifiante. Et puis l'on s'y fait. Situation pécuniaire assombrie qui va tourner à l'obscur. Un entracte noir absolument. Misère et presque corde, si bien qu'une recrudescence de la maladie et la rentrée dans un troisième hôpital sont les bienvenues. Au moins, c'est la paix loin des gens et la souffrance laissée tranquille. Les idées de mort, mort aux gens, mort à soi-même, s'évaporent dans les odeurs d'éther et de phénol. Le sang bat plus calme, la tête résonne de nouveau, les mains se font ce qu'elles furent plutôt toujours, bonnes et paisibles. Aussi bien le lieu sied à l'apaisement qu'il crée, fin du XVIIIe siècle, avec arrangement et accommodement, Louis-Philippe et 48. L'intérieur de l'immeuble a surtout un air de ces maisons de province à très haut plafond. Le parquet, cruellement ciré, parfois bombé de vétusté, dit, par sa disposition en fantasque biseau, l'âge considérable de ce logis. C'est dans une petite salle en retrait d'une autre beaucoup plus longue, derrière un tambour vitré, isolant, sans isoler du reste, des malades qui sont quatre. Cela forme chambre, prenant jour largement, sur un faubourg relativement peu passant de la rive gauche, en face du jardin vert clair d'un établissement supérieur de l'État. Nous sommes au printemps, il y a des oiseaux. L'intensité de la situation, à la fois désespérée et à essayer de sauver par la patience, quand tout pousse à des violences superbes qui perdraient affreusement les choses, met un bandeau sur les yeux et de la cire dans les oreilles. Des laideurs non intéressantes, sans nul doute, et des sottises que de la banalité rend plus horribles encore, échappent. Une chapelle odieusement moderne, où toutefois chante une jolie voix sur un harmonium discret. Comme il y a un affreux costume pour les femmes, on n'y voit point de malades du beau sexe, à l'exception de deux ou trois vieilles et de toutes fluettes gamines, déjà pleines d'œillades pour la plupart. Paraît qu'il existe au fond à gauche du pavillon d'accouchement des baraquements comme là-bas. Merci, souper. Le gaz, en le définitif hôpital, est contenu dans son juste rôle de domestique. Il éclaire les cuisines, offices, corridors, escaliers et les cabinets. Définitif s'emploie ici parce qu'on aspire à ne plus fréquenter dans ces sortes d'asile, quitte à envahir des gîtes pires si la malchance s'obstine aussi. Chapitre 2. Là, là, tout beau, monsieur le poète. La vie n'est pas si courte que cela, ni si brève. Elle est faite de transitions. La patience y a son rôle qui est prépotent. D'autre part, les causes déterminantes de votre initiation des hôpitaux n'ont pas tant s'en faut disparu. Enfin, le vœu de connaître d'autres abris n'était pas raisonnable et se trouvait peut-être trop ambitieux dans l'espèce. Vous l'avez compris et vous vous êtes soumise à l'inévitable. De nouvelles impressions vous attendaient dans les mêmes milieux et s'il doit y avoir une fin différente de la fin naturelle, à ses habitudes d'ascète un peu malgré soi, nul ne le sait. Toujours est-il qu'il y existe une suite dont témoignent les quelques fragments qui vont suivre et que voici succinctifiés. On a prononcé le mot de convalescence et c'est maintenant un pavillon central, diminutif et simplificatif du pavillon central des Tuileries, mais napoléonisé par un vaste écusson impérial de front. L'aigle repose sur des foudres, et derrière, en draperie, le manteau semé d'abeilles, fourré d'hermine, que borde le collier d'aigle minuscule, où pend une grosse croix d'honneur, le tout de pierre, bien entendu. Assez lourd et banal et laid, par parenthèse, soit dit, sans manquer de respect à César décédé. À droite et à gauche, à rez-de-chaussée, un étage de haute vitre, et en retour, deux ailes, pierre, brique et bois, suggestives d'immenses communs, écuries et remises sans fin, le tout un peu grandiose, avec quatre grands jardinets autour d'un bassin assez vaste, et bien en avant, une énorme pelouse piquée çà et là, de corbeilles plutôt pauvrement fleuries. Mais le palais n'est-il pas pour les pauvres, et faut-il l'oublier? Les bâtiments s'enfoncent très profonds sous forme de galeries latérales, assez basses pour que l'œil discerne légers éclairs, les arbres gentils d'un bois plébéien des environs immédiats de Paris, au milieu duquel, d'ailleurs, comme dans une clairière, s'élèvent ces constructions, après tout agréables. C'est Napoléon III, le bien intentionné, qui fonda cet asile pour les convalescents des hôpitaux. La disposition même des œuvres intérieures, le caractère même des us et coutumes de la maison, proclame jusqu'à l'excès cette origine. Longs couloirs de casernes, chambrées à trois lits, qui rappellent les petites salles d'hôpitaux, et une discipline un peu de prison. Les réfectoires aux tables de marbre rouge, aux colonnettes de fonte gaiement vernies, reportent la mémoire aux premières manifestations des bouillons du Val, cette création de la seconde époque impériale à son apogée. Les noms, pour la plupart suisses, des galeries, salies et dortoirs, sonnent bien dans une institution de l'élève favori du brave général Dufour. Enfin, le règlement, œuvre évidente du philanthrope, teint de fourriérisme qui fut le vainqueur de Sarrouk, ce règlement lu et relu à toutes occasions par des surveillants, j'allais dire par des gardiens à moustache grise, d'ex-grenadiers de Magenta, de médaillés du Mexique et de Chine, fleure bien du prisonnier de Ham, non sans quelques fumets de militarisme à Taval. Il n'y a pas jusqu'au Cirquensets pour flanter le panem des réfectoires, que les salles de chant et de jeu, jeux de bois, échecs, dames, dominos ou mieux doches, ne suggèrent point au point de vue décadent de ce que la rhétorique encore en usage dans les journaux à un sou appellerait les dons funestes d'une dictature heureusement pulvérisée sous le relèvement national. On reviendra tout à l'heure sur la salle de chant. La salle de jeu est, comme du reste la salle de chant, un vaste parallélogramme meublé de longues tables et de bancs où l'on fume en arrivant à dames ou en posant le double dèche. Mais entre les deux réfectoires, dissimulés par d'amples draperies d'étoffes rouges sombres, c'est surtout la chapelle qui parle plus haut du fils d'Hortense et de son règne, tant le blanc et or de l'autel et du rétable, tant le tapis rouge des degrés, tant les grilles et la lampe mordorée et l'harmonium accompagnateur à messe basse de dames et de messieurs du dehors, évoquent les messes des Tuileries, où s'épanouissait en ses robes miraculeuses la toute belle impératrice et se gonflait en état-major de chambellans et de maréchaux, où l'empereur somnolait comme attentif. Seulement ici, les fidèles sont au contraire de pauvres diables, étonnés de se trouver là, sous le regard à moitié bienveillant des employés gantés de filoselles, et très dévotieux, scrogneux. Clic-clac, les deux voitures de l'administration, bondées de convalescents, cueillies aux quatre points cardinaux de l'assistance publique, familièrement AP, débusquent de la rue qui passe devant la grille d'honneur, franchissent cette grille et viennent déposer à la porte du bureau d'admission une trentaine d'entrants, qui, après les formalités d'usage, inscription, visite sommaire du médecin, première lecture des règlements par le capitaine, chef du personnel de surveillance, s'égaille vers les chambrées désignées, en emportant sous leurs bras les effets d'habillement répartis à chaque convalescent, soit une paire de chaussettes et d'espadrilles, une chemise, un bonnet de nuit, un paletot-sac bleu de Prusse, une calotte de drap, même couleur, on est au premier jour de mai, le costume d'été, paletot plus léger et chapeau de paille, part du 15 de ce mois, un essuie-main et une serviette de table. Alors, direz-vous, tout convalescent est considéré comme possédant un pantalon? Mon Dieu, oui. Galerie chose, chambre est-elle? Et le poète entre dans une pièce cirée, beaucoup trop pour son ankylose incomplète du genou gauche, consécutive à une arthrite rhumatismale. Trois lits dont les convalescents doivent faire les literies tous les matins, d'après certains principes, comme au régiment, de même qu'ils doivent balayer et cirer ce parquet, hélas, si glissant. Les compagnons actuels du poète sont un gardien de square, un bonhomme peu causeur, et un tout jeune homme, 16 ans à peine, une tête blonde, très jolie fille anglaise, qui hausse toutefois une grâce déjà virile. Il remarque la difficulté qu'éprouve le poète à mettre son espadrille gauche, se met gentiment à sa disposition. Mais la cloche sonne, on va dîner. Entrée lente au réfectoire, bon repas, meilleur qu'à l'hôpital, même du dessert, quelle joie! Sortie en file indienne, sous l'œil terrifique un peu du surveillant préposé au réfectoire, après une récitation à haute et intelligible voix du sempiternel règlement. Promenade au jardin, une pipe ou deux, puis, pour la première journée, toute de fatigue et d'excitement, au corps relatif, coucher somme suffisant jusqu'à 6 heures, l'heure de la soupe. Soupe très bonne, à se croire au hall, parole d'honneur. La seconde journée s'écoule entre le jeu de boules, si dans un petit bois séparé du grand par des palissades, et la bibliothèque assez bien fournie. Le poète y commence la lecture de l'histoire de la Restauration par Lamartine, après la douche de vapeur ordonnée semi-quotidienne. Livre intéressant, quoique et parce que méconnu et inconnu. Douche amusante comme tout. Le soir, ascension à la salle de chant. Le jeune homme de tout à l'heure y chante des romances d'une voix exquise, intelligemment conduite. En descendant pour la chambrée et la ruinité, il est félicité principalement par le poète, à qui il racontera quelques jours plus tard son histoire navrante et fière. Ils doivent quelques mois et quelques années plus tard se retrouver. Les semaines se passent ainsi sans grands incidents, et départ avec quelques louises en poche pour la liberté définitive. Chapitre 3. Bon, voilà les bêtises qui recommencent. Allons, bonhomme misère, bonhomme guignon, bonhomme pas de chance, retourne à tes hostos naturels. Et c'est pour la seconde fois le littéral palais, mais que changer? Qu'assombri depuis des semaines d'apprentissage. Les hautes fenêtres aux longs rideaux blancs ressemblent à des vantaux d'une prison pour géants ou de quelques maisons de fous en rêve. D'argent comptant, plus. De l'argent futur, sûr toujours, mais moins. En attendant, le même soleil de juillet à un an d'intervalle, mais accablant aujourd'hui comme colérique et colorifère dans sa fureur. Les mêmes hautes salles, on dirait rabaissées comme un ciel d'orage qui serait menaçant, blanc d'un blanc, de faire chauffer à blanc, d'un blanc funèbre tel un convoi de vierges. Même médecin en chef. Il semble moins paternel avec de nouveaux suivants qui ne paraissent pas valoir les autres. Service à première vue moins attentif. Jusqu'aux malades qui paraissent plus endurcis. Durant ce mois, pourtant torride et qui doit être malsain, pas un de n'est mort, mais quelle mauvaise humeur, à peine suspendue par la fête nationale. Petits extras, quelque peu plus d'élasticité dans le règlement, une décoration intérieure à bon marché, due à l'enthousiasme collectif des malades, guirlandes de papier et des RF faussement dorés sur des cartouches tricolores comme les guirlandes. 20 jours là, passés. L'asile napoléonien, encore un coup. En août. Un août pluvieux. L'an dernier, c'était par un beau mois de printemps. Il y avait des rosées de toutes nuances au long de balustrades envahies en ce temps par les fleurs aujourd'hui vertes et noires de feuilles et de branches. Les arbres des quinconces et du bois jaunissent par nombreuses places, et le vent emporte déjà les feuilles. Le vent aussi pleure dans les corridors à certains jours, et les courants d'air, toujours mauvais, commencent à devenir dangereux, ainsi que me le fait observer un Parisien pulmonique envoyé ici par erreur, indubitablement. Fraîche et plus les fins de nuit, et l'on se met à inaugurer le système d'hiver, qui consiste à plier en deux sur la longueur l'assez mince couverture qu'on s'était contenté de déployer jusqu'à ce temps exceptionnellement rigoureux. La nourriture qui, comparée à celle d'ailleurs suffisante et saine, quoique monotone des hôpitaux proprement dit, était réellement si bonne, si variée, contracte maintenant un goût à la fois de trop peu, dans le sens strict du mot, et de pas trop. D'aucuns parmi les convalescents attribuent ce changement pour un mal au départ imminent des sœurs. Leur remplacement rétablira-t-il le bon ordre d'auparavant, aussi bien dans la discipline vraiment paternelle ou maternelle, comme on voudra, que quant aux choses du réfectoire? Car ici aussi, quelques relâchements, que complémentent et corollent, on serait tenté de le croire, quelques mal-talents pour la bonne administration et l'équanimité, surtout, qu'il faudrait pour faire mieux, règnent trop et ne gouvernent pas assez. On s'ennuie. La bibliothèque est toute lue, connue chaque arbre du petit bois côtoyant une maison de fous et de folles de qui l'on entend les cris. Quels cris vers le milieu du jour! Adiabone meridiano, libera nos domine. Les vaches même, laitières poules pulmoniques, qui pèsent dans une clairière en miniature, ne sont plus amusantes et n'ont pas l'air de s'amuser non plus. C'est navrant. Le soir vient, on a dîné réglementairement. Se coucher pour ne pas dormir est bête. Et l'on monte à la salle de chant. Drôle, ça. Comme qui dirait la concrétion, la synthèse, la quintessence du goût musical parisien populaire, la romance y domine. Les vieilles reproductions en ce genre persistent, les nouvelles battent à plate couture leurs contemporaines à visée comique. C'est ainsi que, comme à 20 ans, moine et bandit, et tutti quanti, alternant avec Petit Pinson ou Carmen, vous n'avez pas d'âme, etc., sont bien plus fréquemment chantés et bien mieux goûtés, et en dépit du règlement un peu bien draconien, ici, applaudis à grand renfort de canne, béquille et béquillon, que tels ou tels docteur Isambard ou Joséphine, elle est malade. C'est aussi bien une remarque faite depuis belle lurette que le faubourien, ou ce qu'on nomme ainsi, c'est-à-dire le sceptique naïf et le gouailleur spontané par excellence, est volontiers élégiaque en musique, et plus épris du mélodrame sentimental et haletant, rosé et noir, que du vaudeville et de la farce. Nulle conclusion d'ailleurs à tirer de là, comme des trois quarts de toutes les remarques, n'est-ce pas? Mais quels interprètes, pour la plupart! Les trois chansons historiques, on parle sérieusement, de la période dont nous venons de sortir un peu éclopés tous, en revenant de la revue, les piou-piou d'Auvergne, le père, la victoire, jolies au possible comme timbre et comme poème, amusantes, spirituelles, très spirituelles même, quoi qu'en ait certains délicats qui seront toujours malheureux, se trouvent écorchés comme... Ah, geste faux comme la voix gutturale et traînarde, à moins que fêlée au Paris, ou alors terriblement méridionale, pataquès inouï, qui ferait douter si le chanteur comprend ce qu'il envoie, terminaison en haut des rimes, à l'instar de quelques artistes, de très infimes cafés-concerts, et ce par chic, par un naïf au fond et quasi touchant dans 10 mots, et ces gentils si topographiques, si l'on ose ainsi parler, où défilent sur des airs pimpants tous les quartiers et monuments de la capitale, dans des circonstances toujours drôles et drôlement racontées. Les statues en goguette, le Gaulois du pont d'Iénard, la chaussée Clignancourt, la Samaritaine, derrière l'omnibus, que bougrement et foutrement mal rendu par ces braves gens, d'ordinaire délurés et pharaux, autant que des convalescents peuvent l'être. Mais une fois sur les planches, bon, c'est une véritable petite scène, apeuré, gauche et pâteau. Ce n'est que quand ils débitent du sérieux qu'ils deviennent comiques, sauf de rares exceptions. La romance, déjà pas mal ridicule, est essentiellement et prend des proportions de parodie à perte de vue dans ces honnêtes bouches où les rogomes passés, les acubranchites accumulent les notes les plus étonnantes. Il y a aussi la non-intelligence, sinon des choses chantées, du moins des intentions de l'auteur, galfâtre ou non. Par exemple, « Les bœufs » de Pierre Dupont, admirable poème. « J'ai de grands bœufs dans mon étable », le chef-d'œuvre peut-être, avec les pins et les sapins, du vrai poète intense qui sortira du demi-oubli d'aujourd'hui. Vous les figurez-vous, comme ils le furent à l'époque dont il est question, traduit avec l'accent affecté d'un rusto de Seine-et-Oise, et la chanson patriotique. Pauvre grand cuirassier de la Rochefalken, douloureuse Alsace-Lorraine, toute belle et toute pure figure de Marceau, du moins soyez clément à vos chantres dans ces demeures, à la pensée d'ailleurs que ce sont des pauvres, des infirmes, des souffrants, des simples pour la plupart, sincères dans le choix de leur numéro. Peut-être bien aussi qu'il y a parmi eux quelques survivants de la charge épique dont pleure encore toute fière la patrie. Que ce gamin qui braille « Il est mort, ce soldat stoïque !» a dans sa giberne de scolote la feuille du collet et les étoiles de la manche. Que ce bon garçon à l'accent tudesque est un déserteur de l'armée du Reichsland. Mais quelle est cette voix? Le poète la connaît et ne la connaît pas ou réciproquement. La fausse lumière, non pas de la rampe, car il n'y a pas de rampe, ou du moins pas d'éclairage à la rampe, mais de la salle que teintent obscurément quelques becs de gaz à globe dépoli, ne permet qu'après un temps de discerner les traits de celui qui occupe le théâtre en ce moment. Et il se trouve que c'est le jeune homme du printemps dernier, un peu grandi, et de qui l'organe de Tenorino a mué dans ce court intervalle en un velouté clair et chaud baryton. Quoi encore de particulier ici avant d'en partir pour toujours? Peut-être, et sans plus d'émotion qu'il n'est séant. Ah, si l'on veut ceci. Les visiteurs des convalescents sont admis à visiter aussi les diverses parties de l'établissement sous la conduite d'un employé ad hoc qui leur détaille les choses intéressantes. Cet honnête cicérone ne manque jamais d'attirer l'attention de ses auditeurs sur deux immenses cartes d'Europe et des deux mondes, œuvre d'un convalescent peinte à fresque sur deux murs de la salle de jeu. Et il profère « Ce convalescent, en outre du temps, un an à peu près, qu'il fut admis à passer à l'asile pour mener à bien son travail, obtint de la direction la somme de 500 francs et l'assurance, ou plutôt la certitude, d'une place immédiate dans une administration de l'État. Or, le jour de sa sortie et les quelques jours qui suivirent, deux ou trois au plus, il se grisa. Il fit la noce avec des femmes, bref, dépensa ses 500 francs et eut l'audace de revenir solliciter un secours qui lui fut naturellement refusé. Il faut entendre les réclamations indignées des bonnes gens, parents pauvres pour la plupart, des pauvres pensionnaires qui viennent voir. « Ah, saligaud ! Faut-il que les bons pâtissent toujours pour les mauvais ? 500 francs en 2 ou 3 jours !»« Eh non, brave homme ! Eh, ma digne matrone ! Eh, mes pauvres enfants ! Avez-vous vous-même eu bien souvent 500 francs à votre disposition ? Et vous figurez-vous quel trouble, quel littéral coup de gond dans une âme d'artiste peut-être de déclasser qu'une pareille misérable fortune a emporté le paradis d'un seul coup ? Ne paraît-elle pas toute dictée, cette conduite, au premier abord absurde, à d'anciens désespoirs invétérés ? Mépris de l'avenir, dégoût du passé, indifférence pour une vie qui va, certes, recommencer plus âpre et plus désolante. Les jours s'écoulent. À la porte, les convalescents, voire béquillards. Il y a une fin à tout. Les plus pauvres vont passer 3 jours dans une vague annexe où on est censé leur chercher du travail. Les autres se répandent par la ville en quête d'un ouvrage qui se cache et d'une santé en déroute. Chauves-souris de l'hiver parisien dont les hirondelles, selon des romances, seraient les petits Ramona. Clic, clac, fouette, cocher. Les deux voitures de l'administration, bondées de convalescents, franchissent les grilles de la cour d'honneur. Au revoir, camarades. Ou adieu, alors. Chapitre 4. Et voici le plongeon, le débat dans les roseaux, presque l'anéantissement, mi-enlisement, mi-noyade, dans cette marne, la misère dite noire. La seule branche de saule frémissante, la planche providentielle unique, flottant encore un peu à portée, ce va être encore l'hôpital, grâce à la maladie qui se cramponne, bonne mais lente, pourvoyeuse à la Camarde. Et allons-y pour la 3e et 4e et quante fois de l'immeuble sur pilotis, abattoir, extérieur, intime chapelle méthodiste. Changement de service. Des vieux, cette fois des chroniques, comme on parle ici, chronique c'est presque saturnien ça. Eh bien, vive les vieux. Ils ont leurs inconvénients, surtout physiques, mais on les leur passe en vertu de leur morale, qui au fond, étant ici peuple et simple, se trouvant peu chargé d'instruction et de lecture, ravi par son initiale et presque intacte sagesse, et son expérience des faits, de faits attestés par leurs mots mêmes, tant tristement ridicules, soient ces mots, parfois, et par la grande misère du pauvre juif errant, que tu es, peuple qu'on pousse et qu'on abuse et qui t'insurge, toujours vaincu, le vaincu des balles et de l'approbation dans l'esquintement. Mais ne voilà-t-il pas que le prophète vient de faire du socialisme un possibiliste, et on en demande pardon pour lui aux belles dames qui n'auront pas lu ceci devraient défiler en masse profonde de docteurs et d'élèves. Tous les docteurs, avec leurs nuances, gentils et plus pour la plupart. Les élèves, pas tous. Pour la majorité qui est aimable, informée, suffisamment attentive, il y en a d'affreux, d'abominables, vraiment poseurs et grossiers, traitant le malade en véritable prisonnier, en forçat, du haut de leur col cassé et de leur cravate claire à bijoux, faux, inhumains tout à fait et insolents, comme dit si bien le peuple si nerveux de Paris. Pauvres d'eux au jour de la prochaine. Même dans leur trou de province où les autres auront mené leurs études, ceux-là sont les cancres de la classe. La rancune ne les épargnera pas, des misérables continuer à être maltraités et de plus alors rançonnés par ces médicastres. Le poète peut être aussi, en des invectives, plus à la Martial qu'à la Juvénale, les nommera sans éloge, ces petits cuistres qui l'auront bafoué sur son lit de douleur et d'affamé. Ce jour-là sera terrible, dies irae en miniature, et leur nom mal fait pour la postérité, pourtant y parviendra, en compagnie de bien d'autres, étonnés. Un interne aussi, un seul, fut vil et méchant. Son nom aussi retentira quand faudra. Mais empressons-nous de le dire à la gloire, après tout, de cette lamentable humanité. Ces gens-là ne forment qu'une infime exception, infime dans les deux sens du mot. On s'habitue à cette vie comme monastique, sans hélas l'oraison, et la règle suivie pour elle-même. Le lit vous pénètre, on y vit tout à fait, même on y pense, mollement souvent, parfois virilement et noblement. Le poète n'y dort pas, mais dehors c'est la même chose, excepté quand son lit est partagé dans certaines conditions de bonne fatigue. On ratiocine, on finit par ne plus regretter, le dehors même ancien est dès lors regrettable au sens des gens non initiés. Et puis il y a eu des sorties mémorables en ces à peu près 2 ans de cette sorte de captivité, moins la stabilité, le prestige et le sérieux. Car, d'une part, grâce à de provisoires ressources inespérées, oh ces ressources, oh cet inespoir, oh ce provisoire, un voyage à une illustre station balnéaire est réalisé. Une cure, comme pour quelques richards, dans des montagnes qui sont le pied très respectable des Alpes et célébrées par le plus grand poète français avec Villon, Ronsard et Racine, concurremment avec un lac très bleu, que d'ailleurs notre poète, à nous, n'a pas vu, faute d'argent pour... excursion en voiture, mais dont il aperçut des brouillards à mi-côte d'un pic fameux, tel un sourcil dans un sombre visage fantastiquement gigantesque, douches et bains, table d'hôte de jour en jour diminuée. La season tira sa fin, jusqu'à ce que le poète reste seul. Excellent poisson, entre autres particularités locales, culinaires, qui se nomme Lavaret et descend de Cardon aborigène, très bon, dont le nom s'en est peut-être allé. Bon temps, en somme, intermède plus distrayant qu'il eut lieu de le supposer. Divers incidents, dont un comique est dû à la pauvreté même. Oiseau rare, fleur de fleur, paradoxe, à la pauvreté même du baigneur. La même pauvreté lui rend encore d'autres services. Elle a coutume d'en rendre tant quand elle est bien prise. Rentrée au bercail sur pilotis, ou, par parenthèse, 2 mois passés auparavant à côté d'un cher ami malade aussi, et sorti en même temps, À qui et de qui lettre le et à la station balnéaire illustre. Ah, ce furent de bons mois d'été. Ainsi que plus tard, ce furent avec un autre cher ami six douces semaines d'hiver. Au sort de là, quelque affectionnés déjà que l'on fût l'un à l'autre, bien plus affectionnés. C'est mieux ceci qu'une fraternité, qu'une amitié de collège. C'est comme une fraternité, une amitié de collège greffée sur l'amitié de devant. Et c'est exquis, croyez-le. Mais à l'autre grande sortie, une vente avantageuse, par quel hasard, d'un manuscrit de verre, a ouvert les portes de l'hôpital resté toujours entrebâillé par la bienveillance du médecin en chef, à qui merci de tout cœur en ces lignes. Quelques semaines, voire deux ou trois mois, ont leur cours normal de vie et jusque de plaisir. Puis l'ombre de la dèche revient, précédant de peu la chose. Et c'est en ce moment qu'un soir d'été, sur une terrasse de marchands de vin traiteurs, ou en compagnie, le poète, dînant à crédit, vit venir dans l'ombre humide d'un orage de tout à l'heure une forme longue à garde timide et si longue. Cette forme se penchait sur lui, presque spectrale, quand une voix brisée et rauque et si faible. « Comment, vous ne me reconnaissez pas, le petit chanteur de là-bas ?»« Et quoi, mon ami, c'est vous, mais asseyez-vous donc, garçon, un couvert et un dîner !» Car le pauvre enfant n'avait évidemment pas mangé depuis longtemps. Et il sortait, comme il le raconta, d'un hôpital et de toutes les asiles de nuit. Il y avait deux jours de cela, et il errait. Quel haillonneux! Le dîner, à quoi quel honneur fut fait? Fini le petit chanteur, confiant à son dé l'or et pour toujours ainsi, qui n'avait pas un sou pour se procurer un domicile. Non, je n'ai pas un sou non plus, mais ma chambre qui court encore est grande, il y a de la place pour deux. Mais je suis malade, tuberculeux, par suite de refroidissement et de privation. Et mes accointances dans les hôpitaux. Et le surlendemain, un peu mieux d'estomac, le moral un peu remonté, un peu haut, si mal, hélas, renippé, l'enfant de la misère honnête et pure, l'orphelin avec des parents affreux, la fleur est le fruit d'un amour deux fois coupable et pour finir criminel, l'abandonné, sauf par un aussi pauvre que lui et vieux en sus, mais moins atteint dans la santé, entrait dans l'établissement Louis-Philippe et 48, malade et misérable de nouveau dans les baraquements où le poète ne tarda pas à le rejoindre. Et ce furent encore des semaines relativement et positivement délicieuse, bien que mélancoliée par l'état lentement inspirant du jeune homme, qui bientôt, trop tôt sans doute, repartit pour l'asile napoléonien, d'où il entretint une correspondance avec le poète. Tout à coup, celui-ci ne reçut plus de lettres, à sa grande inquiétude. Il s'inquiéta, apprit que le convalescent avait quitté l'asile avec un mauvais rhume. Tel agit parfois cette bonne AP. Et nulle nouvelle à partir de ce renseignement-là. Oublié ou mort, l'enfant pourtant si joliment, si touchamment reconnaissant, viva voce. Quoi qu'il en soit, et parce que tout ne finit pas toujours, même en France, par des chansons, cette incertitude doublement douloureuse vint attrister beaucoup son, il l'espère, cette fois, clôturante évidation des choses d'hôpital. Et sans plus que cela d'assurance, de ne pas reprendre un jour ce travail quasiment silvio-pelliquesque. C'est en toute mélancolie du passé et sur l'avenir qu'il prend congé du trop bénévole lecteur que ces paroles ont pu distraire, et de vous, chère madame, qu'elles ont dû, à défaut de mieux, amuser.